Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma. Alors on approche de Noël et vous allez avoir un petit aperçu eh bien, des films qui vous sont proposés pour ce Noël puisque nous allons parler de films qui sont dans les salles depuis le 20 décembre. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Toi Manu, tu as deux films.
Oui, je vais vous parler donc des Colons et puis d'un biopic Munch.
Et Munch, bah, ça donnera l'occasion de réécouter un blind test qu'on avait déjà fait sur les films avec des peintres au cinéma cette année. Et donc, on va rediffuser pour tous ceux qui ne l'auraient pas déjà entendu. Et quant à toi, Guillaume, un film?
Oui, une suite, plus précisément. Bah, c'est la suite de Chicken Run.
Oui, mais toi, tu nous emmènes en revanche sur une plateforme. Et quant à moi, je vous parlerai de La fille de son père, un film qui était présenté à Cannes dans la section La semaine de la critique. Mais nous commençons avec Les Colons. On se place dans le Chili au début du XXe siècle pour un western contemporain entre violence, cruauté et ironie.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Cinéaste ouvertement militant, hein, remarqué pour ses courts-métrages, Felipe Galvez a visiblement pour ambition d'aborder une des pages sombres de l'histoire du Chili avec Les Colons, manière de traiter indirectement de l'amnésie qui frappe le pays dès qu'il s'agit de regarder dans le rétroviseur. Le génocide des Indiens Selkam, appelé Onas par les Blancs, ne figure pas dans les livres officiels du Chili. Rien n'est évoqué à ce sujet dans les écoles, tout comme le fait que la dictature ait disparu des programmes. Alors en partant de cet effacement, le réalisateur envisager son scénario, écrit en collaboration avec Antonia Girardi, qui va intégrer des éléments de pure fiction avec des événements et des personnages ayant réellement existé. Pour information, les terres traversées appartiennent toujours à la famille Menendez, hein, responsable des ignobles massacres, sans se salir directement les mains, laissant ça entre autres à l'homme de main de Menendez, justement, Chancho Colorado, ayant lui aussi réellement existé. Alors donc, pour revenir au contexte, le film se déroule en République du Chili, terre de feu, en 1901, territoire immense et fertile que l'aristocratie blanche cherche à civiliser par tous les moyens. Trois cavaliers sont engagés par un propriétaire terrien, donc Menendez, José Menendez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l'Atlantique. Sous les ordres du lieutenant McLennan, hein, un soldat britannique et d'un mercenaire américain, le jeune métis chilien Segundo va assister aux exactions de ses compagnons de route, tout ça au nom de la construction d'une jeune nation qui, dès son origine, a les mains couvertes de sang.
Half Indian, half white, never know who they're gonna shoot. You're doing everything wrong, Lieutenant. Ever since you brought that fucking half-breed along.
Les Colons est un étrange film, hein, entre l'âpreté d'un western à l'ancienne, le film historique sérieusement documenté et le pamphlet politique engagé. Certains esprits chagrins vont dire sans nuance, mais comment pourrait-il en être autrement sur un sujet aussi douloureux et édifiant? Felipe Galvez a construit le récit sous forme de chapitres bizarrement déséquilibrés. Le scénario manque d'unité, ou plutôt de fluidité, avec des ellipses importantes, des sautes dans le temps surprenantes, notamment lors d'une troisième partie déroutante, l'enquête du juge Segel, chargé de rétablir la vérité dans un but ambigu, laver la démocratie des horreurs du passé. Alors toute la première partie prend des allures de western sauvage avec des personnages très bien caractérisés, même s'ils restent attachés à des archétypes. Le soldat frustré et le redneck déversent leur haine sur le métis qui se trouve dans une position complexe, obligé d'assister à des choses qui le répugnent. Alors au fond c'est un traître, mais le regard du cinéaste envers ce personnage reste empathique. Ne vous attendez pas à un film d'action trépidant, hein, y compris lorsque le cinéaste filme le massacre dans le camp de Chiliens, hein. Si la violence est hors champ, la séquence est en revanche magnifiquement mise en scène, notamment grâce à la photographie brumeuse, basculant le film d'un coup dans une atmosphère quasi fantastique. Autre moment fort, hein, lorsque les trois missionnés rencontrent un ancien capitaine devenu complètement barge, figure terrifiante qui rappelle là certains personnages du cinéma de Werner Herzog, hein, cinéaste qui semble alors avoir inspiré Felice Galvez, notamment dans cette manière de filmer les paysages splendides, écrasants les personnages. Film douloureux et sans concession, un véritable réquisitoire à charge, Les Colons va diviser, froisser ceux qui pensent qu'il est temps d'arrêter de s'auto-flageller et certainement créer une polémique dans son pays. Il n'empêche que c'est un beau film hein, qui n'oublie pas de faire du cinéma tout en traitant d'un sujet fort. Le dernier plan, hein, bon, que je ne dévoilerai pas, hein, est un acte de résistance poignant, ultime hommage à un peuple qui a quand même bien morflé, on peut dire.
Hein. Mmh. Et c'est un film que, bah, qui a été diffusé à Cannes hein, dans la section Un certain regard que j'ai vu et qui effectivement peut être assez troublant et en même temps une vraie réussite hein, et notamment plastiquement même.
Plastiquement c'est très beau, la photo est très belle et c'est vrai qu'avec ce format un peu carré, je crois que c'est du 1.33, mais c'est vrai que la construction du film est étrange, hein, notamment de scinder en chapitres comme ça, puis cette dernière partie qui...
Et le dernier chapitre, oui, et
qui
fait tomber le film
ailleurs.
Oui,
en fait.
Ouais, effectivement. On n'est plus dans le western. Nous parlions des Colons, un film qui est en salle depuis le 20 décembre. Un père et une fille ont du mal à se séparer. C'est la comédie libre et touchante de Erwan Leduc, la fille de son père.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Rosa.
Ouais.
Ça fait longtemps que t'es là.
Ça fait 17 ans.
Son premier film, Perdri, avait étonné par son thème, par son ton et sa mise en scène. C'est dans des contrées un peu moins fantasques qu'Erwan Leduc nous emmène avec la fille de son père, mais toujours avec une volonté de donner des ailes à la comédie en articulant celle-ci autour du burlesque et des dialogues. Étienne, l'excellent Nahuel Pérez Biscayart, a élevé seul sa fille Rosa, Céleste Brunkel, qui a été très remarquée dans En Thérapie. Alors le père était très amoureux, la mère aussi, mais quelque chose a fait qu'elle a fichu le camp un jour comme un autre. Alors même si les parents d'Étienne ont essayé de le rassurer en lui disant que ces choses-là arrivaient, que les gens ont parfois besoin de prendre l'air, eh bien quand nous sommes dans le présent de l'histoire, cela fait plus de 16 ans que la mère a pris l'air. La relation entre Étienne et Rosa est au beau fixe, hein, on les voit complices, bienveillants, il y a comme un amour inconditionnel qui les entoure, les protège, mais d'une certaine manière les étouffe. Et vient le moment où Rosa en a fini avec le lycée et doit choisir sa voie, ça sera les Beaux-Arts. Écoutons-les un matin entre deux tartines.
Comment ça va avec Youssef ?
On couche même pas ensemble.
Oui, vous êtes juste deux adolescents qui dorment dans le même lit sans jamais se toucher.
T'aurais voulu que je baise, hein, pour bien montrer à quel point t'es un père moderne et sensible.
En tout cas, il est pas obligé de se cacher pour venir ici.
Il est timide.
Dans ce cas, je vais respecter sa timidité.
Et mon intimité.
Oui, ton intimité.
Et les résultats ?
Eh ?
Regarde-toi, moi je m'en fous.
Metz ?
Metz ?
Les Beaux-Arts de Metz. C'est bien, Metz, c'est bien. C'est juste à 322 km. C'est... Personne t'attend, personne te connaît, personne te jugera. Tu seras libre.
Ah ouais, délire.
Par contre, c'est Youssef qui va te déçu que tu partes.
Alors que toi ?
Moi, la seule chose que je veux, c'est ton bonheur.
Cette dernière phrase, beaucoup de parents s'en gargarisent. Hein, n'empêche, quand l'enfant quitte son nid, ce n'est jamais facile de le voir partir. Et dans le film d'Erwan Leduc, l'inverse est aussi vrai. Si Étienne est partagé entre le désir de voir sa fille avancer dans la vie et celui de la voir garder sa chambre, eh bien, sa fille Rosa n'est pas si pressée d'en finir avec cette relation quasi fusionnelle avec son père.
Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore mon Dieu avec toi à la maison. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'aimes, mon père ? J'ai juste besoin de savoir que tu vas t'occuper de lui correctement.
Derrière chaque coup de pied dans ce ballon, il doit y avoir un sentiment !
Ah, ça y est, tu me le donnes. Je te le prête.
Pourtant, avec ce départ à des centaines de kilomètres, eh bien, ce serait l'idéal pour Étienne qui pourrait vendre la maison et vivre avec celle qu'il aime, une chauffeuse de taxi, l'impeccable Maud Viller. Oui, mais le film bascule. Outre la résistance de sa fille pour quitter le domicile, son angoisse de la voir partir jusqu'à la surprotéger, Étienne, un soir, devant Thalassa, voit une femme qui, il le sait, est celle qui a quitté la famille il y a 17 ans. Alors le film change de ton à la poésie et au burlesque qui a été insufflé depuis le début. Le réalisateur ajoute une quête, celle de boucler une histoire. Avec quelques indices, Étienne se lance à la poursuite de la mère de sa fille. C'est proprement ce qu'on nomme un dénouement. Alors c'est une sorte d'enchantement du réel que je recherche, cette idée que ça peut surgir tout le temps de manière inattendue. J'ai envie d'être capable de surprendre et de jouer sur plusieurs registres. Voilà ce qu'a déclaré le réalisateur. Mais attention, de drame il n'y aura vraiment jamais. Hein. C'est davantage une intensité dramatique, une intention qui domine dans un film qui ne quitte jamais son registre, qui navigue donc entre burlesque, situations improbables et dialogues écrits qui font mouche. La fille de son père est un objet filmique jouissif qui met en avant ses deux interprètes principaux, mais également quelques personnages secondaires savoureux comme la toujours surprenante Noémie Lvovsky et le jeune adolescent amoureux poète accompli. Le réalisateur fait un pas de côté du réalisme et du naturalisme, c'est pas si étonnant finalement pour une comédie, mais au contraire de beaucoup de comédies françaises paresseuses, Erwan Leduc insuffle une vraie singularité, une liberté de ton qui fait un grand bien. Avec le film de Gondry d'ailleurs, ce fut le film le plus léger de mon édition cannoise. La fille de son père d'Erwan Leduc, film que je vous recommande plutôt chaudement, c'est en salle depuis le 20 décembre. Portrait foisonnant et changeant de l'homme derrière le cri, nous parlons de Munch.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Munch est à peu près connu de tout le monde pour le cri, inspiration inépuisable pour les artistes de tous les horizons. Le peintre qui compte plus de 30 000 œuvres a aussi fait l'objet d'un superbe documentaire signé Peter Watkins. Le 10e long métrage, alors en moins de 10 ans, du Danois Henrik Martin Dalsbakken, qui a une trentaine d'années à peine, prolifique cinéaste passant d'ailleurs d'un genre à l'autre, s'empare de la figure du peintre pour un biopic qui affiche des intentions plus que louables et des audaces qui risquent de faire grincer quelques dents. Il ne s'agit pas d'un biopic linéaire et ordinaire, le réalisateur retrace la vie de Munch sur quatre périodes, alors brisant la notion de temps, avec à la fois quatre comédiens différents, dont une femme, et quatre scénaristes pour chaque segment. Alors celui qui ouvre le film, interprété par une vieille actrice danoise, montre donc l'artiste au crépuscule de sa vie qu'il consacre à préserver son œuvre immense de la mainmise des nazis qui occupe la Norvège. Plus surprenant, au risque de laisser sur le carreau les spectateurs les plus cartésiens, sa période berlinoise est située dans les années 2000. Alors Munch est un peintre branché, arborant un look hipster qui n'arrive pas à percer, se heurtant alors au conservatisme des tenanciers de galeries. Les deux autres chapitres dépeignent son premier amour dans un style visuel très doux, et ensuite sa déchéance à Copenhague où l'artiste dépressif et alcoolique était en proie au doute.
Jeg maler.
Curieusement, malgré ses partis pris plutôt osés, en attendant le prochain Dupieux sur Dali, qui s'empare du même dispositif avec cinq acteurs différents qui vont interpréter le même rôle, Munch est un biopic étonnamment consensuel et sage où tout est surligné, de l'omniprésence de la musique à la joliesse insistante des cadres. Les quatre comédiens s'en sortent plutôt bien, mais n'arrivent jamais à faire exister émotionnellement le personnage, sorte d'archétype de l'artiste tantôt reconnu, tantôt maudit, où aucun cliché ne nous est épargné. La construction du récit non linéaire, avec constamment ses allers-retours passés présents, couleurs noires et blancs, alourdit le propos plus qu'il ne l'aère. Alors Munch manque de chair et de folie, de silence et de contemplation. Dès que les protagonistes taisent, le spectateur pense souffler, respirer après les déluges de dialogues explicatifs. Le film est très 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 bavard. Je trouve que c'est un peu l'un des points négatifs. La musique se charge toujours de combler le moindre trou de ce biopic pour moi dispensable, techniquement très correct, parfois même très beau, mais en fin de compte assez ennuyeux malgré 2-3 belles scènes comme cette balade des deux amants avec en arrière-plan pour un décor peint à la manière de l'artiste en fait. Voilà, enfin moi je trouve que c'est un film décevant et pourtant ça donne envie comme ça sur le papier. ça arrive.
Ouais. Bon, on peut se laisser tenter. On peut aussi revenir à un autre film sur Munch. Alors celui-ci s'appelait Edvard Munch.
Voilà, le film de Watkins.
De Watkins, donc sorti en 2005. Et je me souviens notamment, film très long, mais pas forcément très bavard, mais en tout cas je me souviens des nombreux regards caméra qui restent sans cesse obsédants pour moi parce qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment dans ces regards caméra et c'est tourné comme une espèce de faux documentaire à la manière de Wicked.
Comme tout ce qu'il fait, oui.
Ouais. Le procédé aussi du comédien, de plusieurs comédiens qui interprètent le même personnage, on l'avait vu aussi dans I'm Not There, le film sur Bob Dylan.
Oui, c'est pas nouveau.
Ce film, Munch, nous donne l'occasion de réécouter un blind test que nous avions fait. C'était à l'occasion de la sortie d'Okusai. J'avais préparé un blind test autour des films qui parlent d'un peintre ou d'une peintre. Je vous propose de réécouter ce blind test parce que je me suis dit qu'en refaire à nouveau, ça n'apporterait pas grand-chose.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Au travers de 5 extraits, il va falloir deviner des titres de films où il est question alors soit d'un peintre, soit de la peinture, mais là, c'est plus généralement d'un peintre ou d'une peintre. C'est parti Premier extrait.
Vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre. C'est quelqu'un de votre famille?
Je n'ai personne, monsieur.
Un professeur? Vous avez pris des cours?
Non, monsieur.
Il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose... C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi?
Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
En tout cas, c'est fort, très fort.
J'y vois bien des défauts.
Et c'est trouvé grâce à l'indice de l'actrice.
Oui, grâce à Yolande Moreau, ouais, c'est Séraphine.
Oui, de Martin Provost, sorti en 2008. Le film met en scène l'histoire de la peintre autodidacte Séraphine de Senlis. De 1912, année de sa rencontre avec le collectionneur Willem Oude, à son internement à l'asile psychiatrique en 1932. 7 Césars en 2009, hein, dont meilleure actrice et meilleur film. Et 821 000 entrées en France pour ce film Séraphine. Deuxième extrait, donc, pour trouver des titres de film où il est question de peintre.
La lune brillait de tout son éclat sur Madame Porter et sa fille. Leurs pieds lavés à l'eau pétillante.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Elliot T.S. Eliot. Messieurs, T.S. Eliot.
T.S. Eliot.
Vous savez que Gorky a vendu au musée d'art moderne?
Gorky est une vache. Les gens fourragent, mangent ce qu'ils trouvent et retournent à l'étable en ruminant toujours. Gorky va passer des heures devant un Picasso et ensuite il retourne dans son atelier et il recrache ce qu'il a vu, mais qu'il aille se faire voir.
Mais il excelle dans cet exercice.
Oui, il est excellent, mais il faut dépasser ces trucs-là.
Que pensez-vous de Klein?
Klein, c'était un rigolo.
Picasso?
Dépassé.
Alors ça a été trouvé.
Et c'est donc Pollock de Ed Harris.
Oui, film de 2000. Là, il s'agit de la vie de l'artiste américain d'après-guerre Jackson Pollock, évidemment, qui s'est fait connaître du grand public par sa peinture abstraite. 58 000 entrées en France seulement hein, pour ce film, gros bide. Mais Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Ed Harris réalise, mais interprète aussi le rôle de Jackson Pollock. Troisième extrait de ce blind test consacré aux peintres au cinéma.
L'exposition n'a pas suscité autant d'intérêt que l'avait promis Breton.
Pablo Picasso.
Les artistes mexicains ne sont qu'une curiosité exotique ici. À vrai dire, je me sens très seule. Et je brûle d'avoir des nouvelles du pays. Diego, cette lettre est un mensonge. Paris m'a beaucoup apporté. Mais sans toi, ça ne veut rien dire.
C'est trouvé.
C'est Frida de Julie Taymor.
Oui, film sorti en 2002 avec Salma Hayek. Le film retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo. Le film se concentre également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotsky. 406 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait de ce blind test.
On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure.
Voilà, c'est toujours pareil. À Nenem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Tout ça pour aller avaler leur saloperie de bouffe hollandaise. Ma mère criait, c'est tout froid, ça va brûler. Enfin, ma sœur venait me chercher. Pas un regard à mon travail. Ben, les femmes, il n'y a que la matière qui les intéresse.
Ne soyez pas injuste. Ma pauvre défunte savait apprécier de grand cœur le travail de ces messieurs, surtout celui de Cézanne qu'elle adorait. Alors, je sentais bien qu'elle souffrait intérieurement de ne me reconnaître qu'un petit talent d'amateur. Enfin, ici, la bouffe, comme vous dites, n'est pas trop mauvaise. Mme Chevalier est la meilleure cuisinière que j'ai connue, à part ma mère.
Trouvé.
C'est donc le Van Gogh de Piala.
Et oui, film de 1991 avec Jacques Dutronc que l'on entend là. Il s'agit d'un film biographique romancé hein, sur les 67 derniers jours de la vie du peintre post-impressionniste tandis qu'il est à Auvers-sur-Oise. César du meilleur acteur pour Jacques Dutronc et 1,3 million d'entrées en France, ce qui est plutôt bien pour un Piala. Cinquième et dernier extrait de ce blind test consacré donc aux peintres au cinéma.
Vous êtes un peu un expressionniste primal, pour ainsi dire.
Un primate, vous voulez dire? Genre chimpanzé?
Est-ce que vous vous considérez comme un peintre black?
J'utilise toutes les couleurs, même le blanc.
Et
mais... C'est plutôt créole, je dirais. Ce que j'entends par créole, c'est... C'est un mix entre l'Afrique et l'Europe. Un peu comme un Africain en Haïti parle le français.
C'est le cas de votre père.
Mm-hmm.
Et que répondez-vous à ceux qui vous appellent le négrillon du monde de l'art?
De vous sortez ça?
C'était dans Time Magazine.
Ah non, 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 ils ont dit que j'étais Lady Murphy, le monde de l'art.
Ah,
c'est pas la même chose.
J'avoue mon erreur. Je suis vraiment désolé.
C'est trouvé.
C'est Basquiat de Julien Schnabel.
Oui, hommage à Basquiat, premier artiste noir à avoir vraiment réussi dans le puissant monde des arts, disparu en 1988 à l'âge de 27 ans. À travers l'évocation de sa vie et de son œuvre, seulement 98 000 entrées en France. Hein. Autant dire que Pollock et Basquiat, qui sont deux artistes majeurs, eh bien, n'ont pas attiré beaucoup de monde dans les salles, en tout cas en France.
This is Cinérama.
C'était la rediffusion d'un blind test autour eh bien, des films qui parlent de peintres. C'était pour le film Munch en salle depuis le 20 décembre. Puisque nous allons parler dans quelques instants de Chicken Run, nous allons écouter eh bien, la musique du premier Chicken Run. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles de Chicken Run. Netflix remédie à tout cela, nous parlons de la menace Nuggets.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Cocorico !
Ben oui, parce qu'on pourrait franchement s'étonner déjà de voir une suite à Chicken Run et encore plus de la voir sur une plateforme. Alors sorti en 2001, le film d'animation des studios britanniques Aardman, qui était d'ailleurs leur tout premier long métrage de cinéma, fut un gros succès mérité en plus d'être une réussite artistique certaine. Alors le génie du film avait été de s'inspirer de la Grande Évasion, mais de remplacer les prisonniers par des poulets, en plus de repousser jusqu'à leur dernier retranchement toutes les techniques employées pour livrer le plus grand spectacle alors en stop motion jamais fait. Alors Chicken Cameron, sous son aspect innocent de divertissement enfantin, m'a montré toute la force de frappe du studio Hardman, à savoir faire rire à travers les déformations des comportements humains, en mettant en scène des animaux pas toujours très intelligents mais terriblement évocateurs. Alors à la manière des fables de La Fontaine, ils ont gardé cette accroche en passant au long métrage, et l'un des tours de force de Chicken Run fut de mettre en scène rien de moins qu'une analogie du fascisme et des camps de concentration, le tout dans un film visible et appréciable par les plus grands comme les tout petits. Alors 20 ans après, Peter Lord et Nick Park laissent les rênes au fidèle collaborateur Sam Fell pour une suite directe.
Ici, nous avons une vie parfaite. Nous avons fait une croix sur le passé. On doit penser à Molly avant tout.
Quelle adorable petite poulette!
Je lui ai fabriqué une bicyclette!
Tu as tout ce que tu peux désirer ici, sur notre île.
Tu peux pas m'obliger à rester ici.
Molly a traversé le fleuve.
Peu importe le fait que plus de 20 années puissent séparer un film de sa suite tardive, car souvent, l'argument se résume à la même idée simple. Alors j'en veux pour preuve l'argument de base de Chicken Run 2, sous-titré « La menace Nuggets », qui est résumé par Sam Fell lui-même. Le premier était un film d'évasion, celui-là est un film de casse. Le sujet du premier était de s'évader d'un endroit, celui du second est de s'introduire dans un endroit. Alors donc, pour résumer la démarche, de proposer l'inverse du premier film au spectateur, tout en gardant la dynamique et en fait le même déroulé narratif. Alors à une époque non définie mais que l'on devine se dérouler à peine quelques mois après les événements du premier film, les poules évadées ont établi une communauté paisible et vivent dans une île isolée, à l'abri du regard du monde et surtout, sans doute, de celui des humains. Ginger et Rocky ont eu une adorable petite poulette, Molly, qui, en grandissant, ressemble de plus en plus à sa mère, avide de justice, tout en combinant l'aspect casse-cou de son père. Alors elle grandit tranquillement dans ce monde parfait jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Elle décide d'aller contre l'avis de ses parents, voir le monde au-delà de ses frontières et va bien évidemment tomber entre de mauvaises mains. Alors il faut dire qu'elle pense que les publicités mettant en scène des poulets heureux sont des invitations pour des vacances ou des parcs d'attractions, mais ce ne sont que des vitrines pour déguster des pots entiers de nuggets composés, vous savez de quoi. Le combat pour la libérer de l'usine dans laquelle elle est parquée avec une amie qu'elle venait tout juste de se faire prend une autre dimension quand un antagoniste bien connu des amateurs du premier film fait son apparition et transforme cette tentative d'infiltration puis d'évasion en affaire personnelle. Alors on le voit donc ici, même si l'idée vendue dans cette suite est l'infiltration plus que l'évasion, il sera bien sûr à nouveau question d'évasion, mais cette fois-ci d'établissement high-tech, transformant la référence à la grande évasion en clin d'œil à Mission Impossible.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Molly! Les véhicules chargés de poules les emmènent dans une espèce d'élevage.
Tu vois, ça a pas l'air si terrible en fin de compte. Oh, ça a l'air terrible en fait.
Voici la quintessence. Le nec plus ultra du nugget.
Mais si la véritable mission impossible était celle de réussir une suite à une réussite comme Chicken Run? Alors il faut bien le dire, si Nick Park et Peter Lord ne sont jamais loin et produisent les longs métrages des studios Hardman, le résultat n'est jamais aussi bon que quand la barre était tenue par ce duo de choc. On a tendance à l'oublier, mais même si le studio habite un grand nombre de talents, il fallait du génie pour arriver à faire de Wallace et Gromit ce qu'ils sont, et passer le film qui leur fut consacré après le succès de Chicken Run, le studio a eu du mal à pondre un véritable grand film. Ni Pirate, Croman ou Shaun le Mouton n'ont su s'imposer, et il est fort à parier que cette menace Nuggets suivra malheureusement le même chemin. En choisissant la voie de la facilité d'une suite balisée, soit dit en passant formule idéale pour un Netflix avide de franchises prémâchées, Hardman ne marque pas autant les esprits. Alors l'usine dépeinte dans le film est tellement éloignée de tout réalisme qu'aucun message contre l'industrie agroalimentaire ne peut vraiment marquer le spectateur, et les rires, bien que présents, sont beaucoup trop passé pour enthousiasmer. Restent les plus petits, véritables cibles de ce film, qui ne s'offusqueront pas du changement vocal du casting d'origine et qui s'émerveilleront à coup sûr des prouesses techniques, elles toujours aussi plaisantes. Il est simplement dommage que ce minimum attendu du studio bien aimé soit la seule chose qui réponde véritablement présent.
La menace Nuggets est visible sur Netflix. Il y avait une autre menace pour les studios Hardman, je ne sais pas si tu as suivi ça Guillaume, mais ils avaient un problème de pâte à modeler parce que l'usine qui leur fournissait la pâte à modeler a fermé C'est une usine britannique. Ils ont racheté tout le stock. Alors, ils ont promis qu'ils pourraient faire le Wallace et Gromit qui doit sortir peut-être l'an prochain, je crois. Mais qu'après, voilà, ils allaient devoir trouver un filon hein, pour pouvoir continuer à faire du stop motion.
Ça a failli être la fin de l'abondance, mais ils ont rebondi. Ouais. Ouais. Vivement, justement, sur Wallace et Gromit. Et j'espère que Nick Park va revenir à la réalisation.
Nous en avons terminé avec cette émission.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Ce sera l'occasion de jouer un blind test avec 10 extraits de films sortis en 2023. À la semaine prochaine.